Dans le club des têtes au carré aujourd'hui, nous allons entendre le prix Nobel français d'économie. On vous parlera d'une publication sur l'allaitement maternel. On va vous donner les meilleures chances de gagner la super cagnotte de l'Euromillion ce soir. On va saluer l'arrivée d'un nouveau magazine scientifique et on ira donc dans les rues de Paris en pleine manif des chercheurs. Mes invités en studio pour détailler tous ces sujets, Benoît Salanave, Loïc Legac, Avner Barène et Charles Frankel. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Et bienvenue, on aura également en ligne Solange Desaguerre, la porte-parole du mouvement Science en Marche, qui va s'occuper donc de nous parler tout à l'heure de ce qui se passe sur le pavé parisien, avec les chercheurs donc, qui souhaitent réclamer un plan d'urgence pour la recherche. Benoît Salanave, vous êtes épidémiologiste, auteur d'une étude qui vient de paraître au sujet de l'allaitement maternel, dans laquelle vous montrez la difficulté pour les mamans à poursuivre longtemps l'allaitement. On va donc en parler avec vous. Loïc Legac, vous êtes le directeur de la publication d'un nouveau magazine scientifique, et ça c'est toujours une bonne nouvelle. Son nom est Thinkovry et son premier numéro sort cette semaine. Avner Barène, vous êtes mathématicien, statisticien et vous allez nous dire quelles sont nos chances de gagner ce soir la super cagnotte de 160 millions d'euros. Vous avez publié un article très intéressant à ce sujet sur votre blog. Charles Frankel, vous êtes géologue, grand amateur de vin et vous avez réuni vos deux passions dans un livre « Vin de feu » qui paraît aux éditions Duno. Il s'agit d'une découverte des terroirs des volcans célèbres. On prendra donc avec vous un petit verre de Stromboli tout à l'heure. Et puis on écoutera pour commencer l'émission le nouveau prix Nobel d'économie, Jean Tirole, qui nous dira si l'économie justement est une science. Voilà pour le menu de ce club des têtes au carré. Vous nous rejoignez avec vos messages sur tous ces sujets, franceinter.fr et puis également sur les réseaux avec le mot dièse l'attaque. Violaine Ballet réalise cette émission qui a été préparée par François Mercier.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Knock on Wood avec Eddie Floyd sur France Inter.
Salut.
La tech. Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Dans l'actualité du club des Têtes au Carré cet après-midi, l'allaitement maternel, des clés pour gagner la super cagnotte de l'euro-million, la lecture d'un nouveau magazine scientifique, un verre de vin au pied des volcans et des chercheurs donc qui manifestent dans les rues de Paris. Dans quelques minutes, nous serons en ligne avec l'une d'entre eux tout à l'heure. Vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». Cette semaine, c'est donc un Français, le chercheur Jean Tirole, vous le savez, qui devient le nouveau prix Nobel d'économie. Au moment de sa médaille d'or du CNRS en 2007, il était l'invité de la Tête au Carré. L'occasion de lui demander à ce moment-là si l'économie était une science.
En économie, on part d'un problème concret qui est soit un problème bien connu comme le chômage ou bien un problème qui nous est fourni par les décideurs, que ce soit un décideur public ou privé. Et après, on fait une modélisation, c'est un peu comme un travail d'ingénieur, on essaie de modéliser
ça,
pour le comprendre.
Ça veut dire quoi, modéliser exactement ?
C'est-à-dire qu'on essaie de capturer l'essentiel du problème dans un petit modèle mathématique et essayer de voir quelles sont les implications et quel genre de politique on peut suivre après. Une fois qu'on a ce petit modèle qui simplifie, bien sûr, on a un modèle qui simplifie, mais qui permet de comprendre mieux le phénomène et d'en tirer des conclusions en termes de politique économique. À ce moment-là, on a plusieurs choses encore à faire. La première, c'est de tester le modèle. Donc, on peut le faire de plusieurs manières. On peut soit utiliser des données, utiliser l'économétrie pour voir si le modèle est vérifié, ou alors jouer des expériences en laboratoire. C'est l'autre possibilité. C'est-à-dire que si on n'a pas de bonnes données, on peut aller faire jouer des gens en laboratoire pour voir s'ils se comportent comme décrit dans le modèle. Et à ce moment-là, quand on a une certaine certitude sur nos conclusions, on peut aller voir les décideurs et essayer de les conseiller.
Est-ce que pour vous, on peut classer l'économie dans les sciences dures ou pas ?
Ce n'est pas une science dure exactement, non. Mais c'est une science qui utilise des techniques et des modèles bien définis sur lesquels à peu près tout le monde dans le monde entier est d'accord. Donc il y a un accord absolument général dans le monde sur qu'est-ce qu'il faut faire.
Voilà l'économiste français Jean Tirole, prix Nobel d'économie cette année. Et notez qu'il sera l'invité exceptionnel de Marion Lourd demain matin dans On n'arrête pas l'écho à 9h. L'allaitement maternel, premier sujet donc de ce club des Têtes au Carré. Benoît Salanaf, vous êtes épidémiologiste. Vous travaillez à l'Institut de veille sanitaire dans une unité spécialisée dans la nutrition. Et vous êtes l'auteur de l'étude Epiphan qui vient d'être publiée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire autour de l'allaitement. Avant de nous donner les conclusions de cette étude, quel est l'objet d'Epiphan exactement ?
Alors, c'est une étude qui a porté sur un peu plus de 3300 enfants qui sont nés au premier trimestre de l'année 2012 et qui ont été suivis pendant une année complète. Donc le sujet, c'était l'alimentation des nourrissons avec en partie donc, toute la période de diversification alimentaire, le moment où l'enfant commence à manger autre chose que du lait. Et puis surtout les problèmes donc, d'allaitement, essayer de suivre un peu ce qui se passe en matière d'allaitement maternel. On a pas mal de chiffres sur le taux d'allaitement à la maternité.
Ouais.
On a des études qui nous donnent ça depuis un certain nombre d'années. Par contre, on a beaucoup moins d'informations sur ce qui se passe après, au moment du retour à la maison. Et donc là, pour la première fois, donc, on fournit des chiffres sur la durée de l'allaitement parmi ces enfants.
Ouais. L'idée, c'était aussi de comparer avec ce qui se fait dans les autres pays européens. Peut-être ?
Alors, on a des chiffres sur les autres pays européens. Il se trouve qu'en France, on se place plutôt dans le peloton de queue,
oui.
En matière d'allaitement maternel.
Oui.
Je crois qu'il y a l'Irlande qui est un peu plus bas que nous, avec des taux d'allaitement maternel à la maternité autour de 40%. En France, on a atteint les 70%, un peu plus de 70% à la maternité.
Donc, comment vous avez fait ? Vous avez questionné les mamans qui ont décidé de participer à ce projet ?
Alors, on a recruté un certain nombre de maternités, déjà 136 maternités sur les 500 contre la France métropolitaine. On les a tirées au sort, donc ces maternités. Ensuite, on a interrogé 25 mères par maternité tirées au sort. Et on a donc une interrogation au moment où elles étaient à la maternité. Et ensuite, elles ont été interrogées à la fois par téléphone et par enquête papier, questionnaire papier et questionnaire Internet à 1 mois, 4 mois, 8 mois et au 1 an de l'enfant.
Et c'est la première fois qu'une telle étude est réalisée dans notre pays ?
Alors, c'est la première fois qu'une étude suit des enfants aussi longtemps au niveau national. Il y a eu d'autres études au niveau de certaines maternités, autour d'une ou deux maternités ou au niveau régional parfois. Mais c'est la première étude nationale. Sur ce type de suivi. Il y a une autre grosse étude qui s'appelle l'étude ELF qui a été lancée à peu près en même temps que nous, un petit peu avant,
oui.
Mais qui, elle, va suivre des enfants pendant plusieurs années, voire 10 ans, voire peut-être plus si les financements sont là. Donc là, on est dans une autre type d'étude.
Ouais. Et on sera épiphane. Au-delà de l'allaitement, là.
Et là, on sera au-delà de l'allaitement. Et puis, on sera aussi au-delà du constat et uniquement des chiffres, puisque là, ils vont pouvoir aussi essayer de voir quelles sont les conséquences de l'allaitement ou des choix alimentaires des mères sur la santé des enfants à plus long terme.
Alors, qu'est-ce que ça donne d'abord à la maternité, le taux d'allaitement en France ? Ça augmente ou pas, hein ?
Alors, ça augmente. On est actuellement autour de un peu plus de 70% des enfants qui sont allaités à la maternité, au moment où les mères sont interrogées à la maternité. Ça augmente. Dans les années 70, on était en dessous des 50% d'allaitement. Mmh. On est passé au-dessus de la barre des 50% à la fin des années 90. Et puis, on était sur les dernières enquêtes nationales périnatales, on était à 63% en 2003 et 69% en 2010, la dernière enquête nationale périnatale. Ouais. Donc, ça augmente légèrement, ça a augmenté un peu plus depuis les années 2000.
Pourquoi ? Parce qu'on encourage les mères à le faire, simplement, au sein de la maternité ?
Oui, il y a des programmes de promotion de l'allaitement maternel qui ont été mis en place dans les maternités à peu près à la fin des années 90. Et puis, l'allaitement maternel fait partie aussi des objectifs du programme national nutrition santé. Mmh. Donc voilà, un certain nombre de choses qui ont été mises en place. La formation aussi des professionnels de santé a été un peu orientée sur ce type de choses pour essayer de donner un maximum de conseils et d'accompagnement maximum pour ces mères qui souhaitent allaiter.
Ouais, il y a des recommandations de l'OMS là-dessus, oui. Qui sont assez ambitieuses d'ailleurs.
Alors, les recommandations de l'OMS, qui sont celles aussi du Programme National Nutrition Santé, donc qui sont aussi les recommandations en France, c'est d'allaiter de façon exclusive son enfant jusqu'à 6 mois, et au moins jusqu'à 4 mois si, pour un bénéfice santé. Et puis, c'est même conseillé de poursuivre cet allaitement maternel au-delà des 6 mois, en commençant à en donner autre chose aux enfants. Mais donc voilà, les recommandations sont celles-ci.
Ouais. C'est quand même très ambitieux, 6 mois. Hein.
Alors, c'est très ambitieux, on en est loin, parce que là, en France, dans cette étude Epiphan, on s'aperçoit que la moitié des enfants qui sont allaités voient leur allaitement maternel s'arrêter avant la 15e semaine. Donc on est à 3 mois et demi. On en est loin aussi dans les autres pays d'Europe, dans pas mal d'autres pays d'Europe. Par contre, on a un certain nombre de pays qui atteignent ces objectifs pour une grande partie de leurs enfants.
Quand même. Alors, quels sont les résultats justement de l'étude là ? Qu'est-ce qui ressort vraiment par rapport à cette pratique de l'allaitement ? C'est que les mamans ont du mal à continuer après la maternité quand même, en gros ?
Oui, alors le premier résultat, c'est qu'à 6 mois, donc au moment où la recommandation s'arrête, on a moins d'un quart des enfants qui sont allaités à ce moment-là.
Oui.
Donc on est loin
de la recommandation.
On est loin de la recommandation.
Oui.
On s'aperçoit quand on regarde les courbes de taux d'allaitement, en fait, qu'elles descendent en fait très très vite, elles chutent très très vite dès les premières semaines au moment du retour
à la maison.
À la maison après la maternité. Donc voilà, et puis après, la courbe après diminue très lentement. Alors il y a des mères qui allaitent au-delà de 6 mois, bien sûr.
Elles sont extrêmement minoritaires.
Elles sont minoritaires. À un an, on a encore un peu moins de 9%, 10%. 9%
hein.
des enfants qui sont allaités encore.
Après un an. Louis Legac.
Oui, non, j'avais juste une interrogation. Est-ce qu'il y a une variation en fonction de la situation sociale des mamans ?
Oui.
Mères célibataires, origine sociale, etc.
Oui, il se trouve que l'allaitement en France est plus pratiqué par les femmes de niveau sociaux supérieur, des femmes qui ont fait des études supérieures et qui ont plutôt des postes de cadre ou cadre sup. On voit aussi également que c'est aussi un problème culturel, parce qu'on voit aussi que les femmes qui sont nées à l'étranger ont tendance à allaiter plus leur enfant que les femmes qui sont nées en France. Donc il y a un certain nombre de dimensions de cet ordre-là, qui font qu'il y a des différences effectivement entre les milieux au niveau de l'allaitement.
Françoise nous envoie ce message sur franceinter.fr. « Je n'en peux plus, dit-elle, ma fille a 3 mois, je souhaitais la sevrer tranquillement. Le problème, c'est que ma fille ne veut rien savoir, elle hurle, elle s'énerve, je trouve qu'allaiter c'est très bien, mais que c'est enfermant et j'ai vraiment envie d'arrêter. » Alors c'est le problème du sevrage justement aussi.
Problème, hein. Du sevrage aussi qui
peut être compliqué. Il y a l'allaitement qui est compliqué, mais arrêter aussi c'est compliqué.
Voilà, arrêter ça peut être compliqué, mais la première chose que je voudrais dire, c'est que l'allaitement aussi est compliqué. Et c'est vrai que on dit souvent que l'allaitement est naturel et on a l'air de dire que ça doit pouvoir se passer simplement et facilement. Or c'est pas le cas. Je me demande aussi, c'est pas pour ça qu'il y a un certain nombre de femmes qui arrêtent rapidement, parce que elles ont des difficultés. C'est pas simple d'allaiter, ça s'apprend. Il faut mettre en place un allaitement, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Des fois ça dure tout le premier mois. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. Et je pense que les femmes, un certain nombre de femmes qui ont choisi d'allaiter, se retrouvent un peu démunies face aux premières difficultés, aux premières complications qu'elles peuvent avoir en matière.
C'est très délicat de donner des recommandations dans ce domaine-là, parce que c'est très clivant aussi l'allaitement. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que, effectivement, on les montre du doigt parce qu'elles n'allaitent pas leur enfant. Alors évidemment, aujourd'hui, la science montre qu'il y a des effets aussi bénéfiques pour le bébé, mais certaines femmes ne peuvent pas le faire, n'ont pas les moyens en temps en particulier de le faire.
Oui, alors bon, je crois que la première chose à dire, c'est qu'un allaitement, pour qu'il soit bénéfique et qu'il soit réussi, c'est d'abord le choix de la maman. Il faut d'abord que la mère en ait envie pour que l'allaitement de son enfant se passe le mieux possible. C'est peut-être aussi le choix du père, donc une décision en tout cas qui appartient au couple. Donc ça, c'est la première chose à dire, c'est la première condition pour que l'allaitement soit réussi et qu'il puisse durer éventuellement le plus longtemps possible.
David demande, est-il vrai que l'allaitement diminuerait le cancer du sein pour la mère? Est-ce qu'il y a des études fiables là-dessus?
Effectivement, il y a des recommandations qui ont été émises par les cancérologues au niveau international, et l'allaitement maternel protégerait d'une apparition d'un cancer du sein plus ou moins long terme.
Quels sont les autres effets bénéfiques de l'allaitement qui sont bien étudiés quand même?
Oui, il y a un certain nombre de choses qui sont étudiées. Les effets bénéfiques qui sont bien connus, c'est en matière d'infection. On sait qu'un certain nombre d'anticorps de la mère passent directement dans le lait maternel, donc les enfants en profitent. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'ils ont moins de risques de faire des diarrhées aiguës, des infections respiratoires, des infections des otites, des choses comme ça. Il y a un certain nombre d'autres pistes qui sont à l'étude en ce moment. On se pose des questions sur éventuellement le diabète, un développement du diabète à plus ou moins long terme chez les enfants, ou survenu d'une obésité ou d'un surpoids. Mais là, les études sont un peu contradictoires et difficiles aussi à mettre en place sur ce type de problème.
Les clés, alors, aujourd'hui, pour encourager, en tout cas, les mères qui le peuvent à allaiter, c'est quoi les messages que vous allez délivrer?
Alors, le message principal, c'est de dire qu'il faut que les mères soient soutenues, celles qui ont choisi d'allaiter. Il faut absolument qu'elles puissent trouver du soutien après leur retour à la maison. Il y a des choses qui se passent dans les PMI, il y a des sages-femmes qui sont spécialisées en allaitement qui peuvent les aider, les conseiller pour essayer de passer ces premières semaines qui sont difficiles et éventuellement de pouvoir nourrir leur enfant au sein le plus longtemps possible, en tout cas le temps qu'elles souhaitent.
Voilà donc pour cette étude qui est sortie il y a une dizaine de jours, Benoît Salanave. Un nouveau magazine scientifique dans les kiosques, c'est finalement toujours une bonne nouvelle, ça s'appelle Syncovry, c'est un trimestriel sous-titré La Recherche pour se faire une idée, et Loïc Legac, vous en êtes le directeur de la publication, un premier numéro donc qui arrive avec en une « Notre cerveau a-t-il une âme ?». Comment on prépare justement la une à premier numéro? Parce que là, il faut frapper fort tout de suite. Le cerveau, c'est porteur?
On espère. Ça nous a occupés. Effectivement, ça n'a pas cessé de changer pendant les 4 mois de préparation du magazine. On a changé de thème, on a changé de visuel. Effectivement, parce qu'il faut parler vite dans un kiosque à tout le monde. Donc, il faut être simple et en même temps ne pas non plus caricaturer le sujet qu'on veut traiter à l'intérieur.
Donc, on souhaite que ce cerveau vous porte chance pour ce premier numéro donc, qui arrive là vraiment ces jours-ci.
Il est en kiosque depuis mercredi matin.
Oui. Magazine précédé par le lancement d'un site internet. Ça, c'est une histoire un tout petit peu plus ancienne. C'est donc la démarche inverse de ce que fait pratiquement toute la presse aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller du papier vers le web, vous revenez vers le papier.
Oui, mais j'ai envie de dire, on fait une frontière qui me paraît totalement questionnable. On n'est pas que consommateur de web et que consommateur de papier dans notre vie. Suivant les moments, suivant l'endroit où on se trouve, on a envie de l'un et de l'autre. C'est totalement complémentaire, d'autant plus que notre site web n'est pas à base d'articles, mais à base de vidéos.
C'est quoi ce site web? Alors, Syncovry, qu'est-ce qu'on peut voir dessus?
Aujourd'hui, c'est plus de 350 vidéos, plus de 200 chercheurs sur des petites vidéos, 3-5 minutes, illustrées par ce qu'on appelle du motion design, donc de l'infographie animée, et où les chercheurs eux-mêmes présentent le fruit et l'état de leur recherche actuelle. Sur tous les sujets, sciences exactes, sciences humaines, comme dans le magazine.
Syncovry.com, pour ceux qui souhaitent y aller. Et c'est un site payant.
On peut découvrir le catalogue pendant 15 jours gratuitement. Et au bout d'un moment, effectivement, il faut s'abonner. Alors ça, c'est un autre grand débat, effectivement, web gratuit, web payant. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut malheureusement... Il y a un prix à la qualité, à l'éditorialisation. Et c'est une tendance de fond, d'ailleurs, sur le net. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Il y a de plus en plus d'expériences qui vont dans l'invention du magazine de demain. On essaye de poser des petites pierres dans ce sens-là.
Alors, concerne. Quand on lance un nouveau magazine, on fait une étude de marché, évidemment, pour voir ce qui existe déjà. Alors, j'ai juste fait un tout petit tour de table avec nos invités scientifiques là, pour savoir si, selon eux, il manquait quelque chose à la presse scientifique, parce qu'elle est quand même déjà assez bien représentée. Il y a des grands magazines qui existent déjà, La Recherche, Science et Vie, Science et Avenir. Loïc Legac, donc, vous avez étudié tout ça. Charles Frankel, par exemple, quand vous lisez la presse française, il manque des choses, selon vous?
Oui, je pense qu'il y a des thèmes qui sont favorisés. On a des magazines sur l'astronomie, on a des magazines...
Donc très spécialisés, là, pour
oui,
le coup.
Oui, plus spécialisés. Puis on a les magazines, on va dire, grand public scientifique qui brassent. Mais il y a des choses sous-représentées. Franchement, par exemple, j'aimerais voir un peu plus de géologie, par exemple.
Bon, vous défendez votre discipline. Avner Baren, alors?
Je pense qu'il y a largement la place pour un nouveau magazine scientifique. Clairement, il y a un besoin de vulgarisation, il y a un besoin de niveau de vulgarisation. Donc, on ne peut que souhaiter longue vie à ce magazine.
Benoît Salanave,
on attend de voir.
Il n'y a pas assez d'épidémiologie dans les magazines, ne répondez pas ça.
Ici, non, mais ça c'est sûr. Mais c'est vrai que la plupart des magazines scientifiques sont souvent un peu compliqués. Et donc là, j'espère que j'ai cru comprendre que Thinkovery, justement, c'était d'essayer de vulgariser le discours des scientifiques que nous sommes. Pour essayer de rendre un discours qui soit accessible au plus grand nombre.
Alors, qu'est-ce que vous avez proposé qui vous distingue des autres, Loïc Legac, hein?
Alors, effectivement, au premier point, j'insiste beaucoup, malgré le format trimestriel très touffu, c'est dense, c'est bien un magazine grand public, premièrement. Le format de nos articles, d'ailleurs, est un peu inspiré du web, puisque c'est plutôt des articles courts, ce qui permet à chacun de butiner. On a plusieurs points de nouveauté qui nous différencient. Le premier, et ça, c'est mon dada, ça s'appelle, notre sous-titre, c'est « La recherche pour se faire une idée ». Je suis convaincu, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur l'actualité pour rendre compte de l'actualité scientifique, mais dans l'esprit de ce que vous faites ici, c'est-à-dire questionner, aller chercher ce que dit la recherche sur les grands enjeux d'aujourd'hui, les questions que tout à chacun peut se poser, ça se fait moins, et encore moins en drainant à la fois, débat de tout à l'heure, les sciences exactes et les sciences humaines. Je reprends, vous me donnez un très bon exemple avec l'allaitement. L'allaitement, il y a effectivement les statistiques et les chiffres dont on a entendu parler tout à l'heure, mais ça pose des questions sur le rôle de la femme et de l'homme dans le couple et comment il évolue, et ça doit jouer un rôle aussi dans cette question de l'allaitement. Ça pose la question des structures sociales adaptées ou non à la position de l'allaitement, de l'égalité femmes-hommes face au travail. Au bout du compte, si on tire les fils d'une question qui, a priori, au départ, est une question plutôt du côté de la médecine et de l'épidémiologie, on aboutit forcément à des questions qui sont sociales. La recherche, elle est au service de la société, c'est pas l'inverse, et c'est ce qu'on essaye de faire dans ce magazine.
Voilà, la crise de la représentation, c'est un des dossiers justement de ce premier numéro.
Oui, on a trouvé que c'était un sujet, alors c'est un sujet un peu tarte à la crème, il a été beaucoup abordé dans la presse. Nous, on s'est dit, mais tiens, au fait, on parle de coupure des élites avec la population, il y a peut-être des sociologues qui ont fait un boulot là-dessus, allons voir, et effectivement, il y a des sociologues qui ont mesuré l'évolution de la population des élus locaux, de l'Assemblée nationale et du Parlement européen depuis une trentaine d'années. Quelle est leur origine sociale, leur niveau d'études? Comment ça a bougé? Est-ce qu'il y a une reproduction sociale au sein de ces élus? Et puis on est allé faire une petite enquête nous-mêmes pour comparer aux nouveaux élus du FN au Parlement européen pour voir s'ils étaient vraiment originaux au point de vue composition sociale.
Des scientifiques signent aussi des articles. Hervé Thys fait partie justement de ce premier numéro. Alors, de la cuisine moléculaire.
Voilà, alors on a des personnes que vous connaissez bien. Hervé Thys comme chroniqueur, Pierre Barthélémy également, voilà. qui tient une chronique dans le magazine. Mais l'essentiel, ce sont des articles signés par des journalistes, mais à partir, bien entendu, à chaque fois, d'une part de la lecture de publications scientifiques dans les revues à comité de lecture et d'interviews de chercheurs.
Tout ce que vous auriez aimé lire sans jamais en avoir eu le temps. Par exemple, Effondrement de Jared Diamond. Donc ça, c'est un livre important que vous avez lu pour nous. Et le but, c'est de le résumer, c'est ça?
Exactement. Le but, c'est de... Voilà, je vous fais gagner du temps.
Voilà, la paresse de l'esprit, effectivement. Un mot quand même pour terminer sur le prix. C'est 15 euros quand même.
Oui.
Alors, c'est un trimestriel.
Trimestriel, ça fait 5 euros par mois, déjà, pour commencer.
Quand même, 15 euros, c'est beaucoup.
Grosse densité, il y a quoi, 60 à 70 articles dans le magazine, beaucoup d'illustrations originales, une BD, doit y avoir une vingtaine d'infographies. Voilà, tout ça, c'est effectivement un prix pour...
Mais c'est gonflé, dans un contexte difficile pour la presse.
On n'est pas les seuls, c'est quand même le prix aujourd'hui standard de ce qu'on appelle les MOOC avec un K, les magazines MOOC en presse.
En tout cas, on vous souhaite évidemment bonne chance. Merci. De vous imposer. Premier numéro de Thinkovery, donc dans les kiosques à partir d'aujourd'hui. Et puis le site également qui est en ligne, toutes les infos sont sur La Tête au Carré. You know I'm racing round. Oh no, you're so juiced. You said you kick the booms. You know I get boomed. You know I'm just a boy. Come on, baby, don't you cry. Glass Animals sur France Inter dans ce club des têtes au carré. Benoît Salanave, Loïc Le Gac, Avner Barène, Charles Frankel. Et puis nous aurons par téléphone dans quelques minutes Solange Desaguerre pour Science en Marche, la manifestation donc des chercheurs qui va démarrer là dans quelques minutes. Ils sont en train de se retrouver actuellement à la porte d'Orléans. Et bien nous prendrons la température de cette manifestation d'ici quelques instants. Mais avant cela, nous allons peut-être vous aider à gagner la super cagnotte de l'Euromillion. Ce soir, on n'a aucun partenariat avec la Française des Jeux. C'est l'aspect mathématique, évidemment, des choses qui nous intéressent. Avner Barène, vous êtes statisticien, professeur à Paris Descartes et un des premiers professeurs de MOOC de statistique. Et vous avez un blog qui est hébergé justement par une autre revue, Science et Avenir. Ce soir, donc, tirage de 164 millions d'euros. L'occasion de se poser la question sur les chances peut-être de gagner cette somme. Est-ce que les mathématiques peuvent nous rendre riches ?
Au moins, elles peuvent vous permettre de réfléchir à comment jouer, au moins les chances que vous avez réellement de gagner. Donc ce soir, vous avez environ une chance sur 115 millions de gagner.
Ah ben c'est une bonne nouvelle déjà. Donc il faut être très très courageux, à moins de prendre 115 millions de billets. Est-ce que ce serait forcément la victoire au bout ou pas ?
Ça serait tentant, même si ça serait difficile de générer les grilles et de les jouer dans la semaine.
Oui.
Mais surtout, sachez que l'État prélève plus de la moitié des sommes jouées.
Oui.
Donc même si vous jouiez toutes les grilles et que vous étiez le seul à jouer,
financièrement,
il n'y aurait que 40% en gros de la somme qui vous reviendrait.
Voilà. Et donc, ce n'est pas intéressant puisqu'il y a 164 millions à gagner vu le prix du bulletin. Alors, le jeu de l'Euromillion, ça consiste en quoi exactement quand on étudie ça de près ?
Eh bien, c'est un modèle où on tire des boules, donc on tire des choses au hasard. Et il y a plusieurs questions qu'on peut se poser à partir de l'Euromillion ou de n'importe quelle loterie. La première question, on peut se demander s'il y a triche. Et en général, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de triche. On peut se poser la question de pourquoi la Française des Jeux fait des super cagnottes.
Ouais.
On peut se demander est-ce qu'il y a des numéros qui sont plus joués ou pas. On peut se poser, on peut faire des modèles, comme disait Jean Tirole, c'est-à-dire des représentations simplifiées de la réalité, et à partir de là, se poser des questions pour essayer de se faire une idée.
Et ça vous amuse de vous les poser, vous, ces questions, apparemment, hein ?
Moi, ça m'amuse de me poser la question en tant que scientifique, en tant que statisticien, sur des questions de la vie courante, puisque c'est assez présent, l'Euromillion.
Ouais, alors, par quelle question on peut commencer, Avner Barène, pour justement essayer d'y répondre et donner des indications à nos auditeurs, même si on a bien compris que finalement, ça allait être très, très compliqué de gagner ce soir. Est-ce qu'il y a des numéros, par exemple, qui vaut mieux jouer que d'autres ou pas ? Est-ce qu'il y a des numéros qui gagnent plus ? Enfin, ça, alors, vous avez passé ça au crible, hein ?
J'ai regardé ça, je dois dire que je ne suis pas le seul à l'avoir regardé, tout d'abord. Il y a plein de gens qui se sont posé la question. Mais on peut commencer par se dire que la Française des Jeux publie le nombre de gagnants, publie évidemment les numéros gagnants, mais ne publie pas les numéros joués. Or, plus un numéro est joué, plus la somme gagnée va être répartie en un maximum de gens. Donc un intérêt, tous les numéros ont la même chance d'être tirés. Mmh. Par contre, tous les numéros ne rapportent pas la même mise. Et par exemple, les gens jouant souvent leur date d'anniversaire, les numéros entre 1 et 31 sont plus joués que les numéros au-delà de 31.
Ouais.
Le numéro le plus joué est à peu près le 7, qui est joué deux fois plus souvent que ce qu'on s'attendrait. Et c'est bon, il y a beaucoup de choses sur l'imaginaire associé au 7.
Ouais, donc il est très joué, mais il n'est pas forcément gagnant non plus.
Il sera tiré autant que les autres, mais par contre, comme il y a beaucoup de gens qui le joueront, s'il sort, le gain sera réparti entre plus de gens.
C'est ça. Donc il n'y a pas forcément de numéros qui gagnent plus que d'autres. Hein,
alors il y a des numéros qui rapportent plus d'argent, mais il n'y a pas de numéros qui sortent plus. Donc tous les sites ou magazines non scientifiques qui tendent à dire qu'il faut jouer tel numéro parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti, c'est un peu comme les Shadoks construisant des fusées pour espérer qu'un jour elles partent sur la Lune.
Plus ça
rate et plus on a de chances que ça marche.
Ouais. Les sommes misées sur les jeux d'argent ont augmenté de façon spectaculaire. C'est assez étonnant quand on regarde les chiffres de très près. 76%, c'est ça, entre 2000 et 2012.
C'est juste hallucinant. Le chiffre d'affaires de la Française des Jeux a été multiplié par 4 en 10 ans. Donc en moyenne, les Français jouent plus de 200 euros aux jeux de hasard par an.
Ouais. Alors comment on explique justement ce nombre de joueurs totalement hallucinant, puisqu'on sait bien quand même lorsque l'on joue que les chances de gagner sont très très minces. Mais on a du mal à bien évaluer au fond la chance de gagner. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, on a une chance sur combien alors ?
Une chance sur à peu près 115 millions.
Donc 115 millions, voilà, c'est ça.
C'est un peu dur de se rendre compte. Donc si je fais écho à l'épidémiologue...
Nos invités sont en train de réfléchir. Hein. Ça mouline donc, sec, hein, pendant que vous nous parlez.
Voilà, si vous prenez un homme de 40 ans en France... ça représente la probabilité qu'ils meurent dans un intervalle de 13 minutes. Les femmes vivant plus, en gros, ça voudrait dire que dans une petite demi-heure, 28 minutes exactement, c'est la probabilité qu'une femme de 40 ans meure.
D'accord, ça c'est le statisticien qui nous propose cette
analogie.
Voilà,
donc c'est juste pour avoir une analogie peut-être, je l'espère, plus parlante, mais voilà ce que ça représente. Alors, ce qui est clair, c'est que ça, c'est je dirais, l'aspect objectif et après réflexion, comme quand on s'est fait une idée. D'un autre côté, on a tous un côté émotionnel, et ce côté émotionnel sur lequel joue la Française des Jeux, avec ses cagnottes, avec cette difficulté à comprendre comment ça fonctionne avec ses rangs, avec ce nombre de numéros, c'est comment on répartit les gains. C'est un processus extrêmement complexe. Moi, j'ai trouvé complexe. Mm-hmm. On ne donne pas les numéros joués, donc on joue sur l'irrationnel. Et l'irrationnel fait qu'on surestime les probabilités faibles.
Donc ça peut expliquer qu'il y ait autant de joueurs quand même qui mettent de l'argent.
Parce que les gens pensent qu'ils ont quand même une chance de gagner. Donc évidemment, si on vous donne 10 numéros dans une urne et que vous tirez un numéro, vous direz que vous avez une chance sur 10. Mm-hmm. Par contre, si je prends une boîte et que je mets un dixième de boule noire parmi des boules blanches, vous surestimerez très vraisemblablement fortement cette probabilité. Vous penserez qu'il y en a 20-25%.
Ouais.
D'accord ? Donc plus la probabilité est faible et plus vous allez surestimer cette probabilité. Donc, si je fais la réciproque, ça veut dire que plus la cagnotte est grande et plus l'État peut prélever des sous sur le jeu. Et on voit bien qu'avec l'Euromillion qui offre les plus grosses cagnottes, l'État prélève beaucoup plus que sur le loto. On a dépassé la barre des 50%.
Donc, c'est autour de cette irrationalité, finalement, que la Française des Jeux fait son beurre. Hein.
C'est une sorte d'impôt déguisé, voilà.
Ouais. Charles Frankel, alors, qui va peut-être jouer ce soir, je ne sais pas.
Est-ce que mon épouse joue. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle, quand elle joue, elle gagne. Mais je pense qu'aussi qu'elle ne me dit pas quand elle joue et qu'elle perd.
Il y a eu beaucoup de travaux, justement. On est très marqué par les dernières fois où on nous dit que ça fonctionne. C'est-à-dire, si on vous a parlé d'un gagnant, c'est pour ça qu'on affiche les gagnants. Donc, il y a eu tout un jeu d'économie comportementale, ce qui est justement quand on prend une décision en situation de risque ou en situation de gain ou de perte. Et donc, il y a le prix Nobel 2002 d'économie, donc sensiblement avant Jean Tirole, avait travaillé fortement là-dessus, sur comment on perçoit de manière subjective les probabilités de gain et de perte, et donc comment ça affecte un choix rationnel dans un marché.
Elle a gagné souvent, votre femme, Charles Frankel,
en fait, oui, je crois que sur 5 ou 6 fois, elle a dû gagner 4 fois. Des petites sommes, hein. Je ne parle pas de millions, d'accord. Bien sûr, mais des sommes parfois qui l'ont bien dépanné. C'est fort sympathique, d'ailleurs.
J'en suis très content d'abord. Mais sachez que ce soir, vous avez en gros 93% de chance de ne pas récupérer votre mise.
Bon, c'est déjà 7% de chance quand même de gagner, de la récupérer.
Pour
c'est
d'autres
pas si
raisons
mal.
Que l'argent aussi, pour le plaisir.
Avenir Barène, la grille la moins jouée et donc la plus rentable, parce que c'est ça au fond qui est intéressant, hein. De jouer les chiffres qui seront les moins partagés avec d'autres.
Donc comme je vous disais, il faut mieux jouer des numéros au-delà de 31 et la meilleure grille quand on regarde, c'est-à-dire les numéros les moins joués.
Alors notez-la bien, le petit conseil, le petit cadeau de la tête au carré aujourd'hui.
C'est d'après les calculs, 32, 38, 39, 40, 41, et 43. Mm-hmm. D'un autre côté, si tout le monde la joue, eh bien, nous égaliserons les gains de tout un chacun.
Donc ça ne va pas augmenter vos chances de gagner, mais si vous gagnez, par contre, vous aurez beaucoup plus d'argent parce que c'est la grille la moins jouée apparemment par les joueurs. Donc 32, 38, 39, 40, 41 et 43. Quel est le mot de conclusion qu'on peut donner à tous ceux qui ce soir vont rêver peut-être quelques secondes ?
Peut-être qu'on pourrait déjà donner le conseil que si la Française des Jeux mettait en données ouvertes à disposition les données de jeu du loto, les gens pourraient être dans du rationnel et pourraient avoir une manière un peu réfléchie de jouer.
Mais sinon, c'est un risque.
C'est un risque.
C'est un risque de perdre des joueurs.
Ça peut être un risque, mais peut-être qu'en jouant intelligemment ou au moins de manière réfléchie, on augmentera le nombre de joueurs. Donc,
En tout cas, on peut lire vos papiers sur votre blog.
Sur le blog de Science et Avenir. Science statistiquement vôtre, vous êtes toujours le bienvenu.
Et c'est en lien, évidemment, sur La Tête au Carré. Charles Frankel, lorsque votre femme gagne au loto, est-ce qu'elle vous offre une bonne bouteille de vin, vous qui êtes amateur? Ce serait sympa quand même, non?
En fait, elle préfère le champagne.
Ah bah écoutez, c'est un bon vin aussi. Certains préfèrent donc mettre de l'argent dans une bonne bouteille de vin plutôt que dans une grille de loto. Vous êtes géologue et grand amateur. Vous publiez Vin de feu aux éditions Dunod, Charles Frankel, un livre qui vous permet de croiser finalement votre métier et votre grande passion. Alors l'idée, c'était quoi au départ? De partir vraiment à la rencontre de ces régions viticoles qui sont placées au pied des volcans?
Au pied des volcans parce qu'ils font du bon vin. Déjà, j'aimais parcourir les volcans pour leur beauté géologique et pour regarder les éruptions. Et d'ailleurs, je m'attardais très peu sur les basses pentes, parce qu'il fallait tout de suite monter en haut, voir l'éruption. Ouais. Et puis, en redescendant...
Les basses pentes, hein, donc
sur
voilà.
Sur les basses pentes, en redescendant, et ben, on traverse des vignobles, et puis on termine généralement à son hôtel ou à son restaurant. Et on se dit, ce vin est bien bon. Alors, bien sûr, il y a toute l'expérience qu'on a vécue pendant la journée, au préalable. Mais c'est vrai que les vins de volcans, il y en a des célèbres, et il y en a qui montent, comme par exemple les vins de l'Etna.
Ouais, voyage donc de la Grèce au Puy-de-Dôme en passant par la Californie et les Canaries et évidemment l'Italie. Vous avez rencontré beaucoup de vignerons pour ce travail ?
Oui, tout à fait. Surtout, bien sûr, dans le Puy-de-Dôme où il y a une renaissance du vin volcanique, on va dire. Mais surtout en Sicile, parce que j'adore la Sicile, l'Etna et la façon de vivre des Italiens et tout ça. Parce que, bien sûr, avec chaque vin, il y a une culture. Ouais. C'est ça qui est formidable. C'est quand vous achetez une bouteille de vin quelque part, vous ramenez encapsulé un peu l'âme de l'endroit et des personnes que vous avez rencontrées. Donc, les vignerons là-bas, j'ai fait effectivement des belles rencontres. Et tout en essayant de baragouiner l'italien, parce que là, quand même, il faut...
Oui, mais le vin délie les langues et facilite le langage, certainement.
C'est absolument exact. Ouais.
Vous allez donc devenir le parqueur du vin volcanique. Ça serait formidable, parce que vous avez quand même beaucoup de terroirs à visiter. Hein.
Oui.
Il y en a beaucoup qui profitent justement du fait d'avoir un volcan pour planter des vignes et faire du vin.
Oh oui, il y a des personnes qui sont attirées. Par exemple, l'Etna, qui autrefois n'était cultivée bien sûr que par les Siciliens, attire maintenant les grands vignerons du nord de la Toscane, du nord de l'Italie, attire les vignerons étrangers. Il y a un Frank Cornelissen, par exemple, un Belge qui fait du fantastique vin à l'Etna. Il est tombé amoureux du volcan, il n'en est plus jamais reparti.
Ouais. Mais il y a des choses qui existent depuis longtemps. Il y a des liqueurs autour de l'Etna qui sont assez anciennes déjà. Je crois que ça a commencé au 19e.
Oui, alors les liqueurs remontent au 19e. Mais alors bien sûr, le vignoble sur l'Etna remonte carrément à Ulysse. Puisque, en fait, quand vous lisez l'Odyssée, on peut supposer que c'est avec du vin de l'Etna que Ulysse endort le cyclope.
Oui. Est-ce que les vignes qui poussent au pied des volcans, Charles Frankel, ont vraiment des particularités, quelque chose en plus, en tout cas, qui modifie le vin et qui fait de lui quelque chose d'assez exceptionnel ?
Oui, déjà, le cépage lui-même. Car, comme vous savez, en fait, les vignerons, ils vont croiser la vigne pour sortir des cépages particuliers qui sont bien adaptés au sol et au climat. Donc, chaque volcan a des cépages antiques qui se sont développés là depuis des millénaires, que ce soit à Santorin, que ce soit à l'Etna, que ce soit au Vésuve avec le célèbre Lacrima Christi, qui repose sur des cépages qui remontent aux grandes heures de Pompéi, par exemple. Et dans mon livre, d'ailleurs, je parle de l'éruption de Pompéi, parce que Pompéi était une ville intensément viticole. C'était une de ses grandes forces économiques. Et ce qu'on trouve comme information, que ce soit dans Pline, etc., on trouve toutes sortes d'informations sur les cépages plantés. On les retrouve sur les mosaïques de Pompéi. On les replante, à l'heure actuelle, dans les ruines de Pompéi, qui comptaient énormément de vergers. C'était vraiment une ville très fleurie où on faisait le vin.
Oui, parce qu'il y a les vignes, et les vergers, hein, au fond.
Oui, voilà. Il y a les deux, mais on a toujours de la vigne dans son verger à Pompéi.
Oui. Loïc Le Gac, c'est un bon sujet, ça aussi, pour Syncovry. Hein.
Très beau sujet. Ça rejoint un sujet qu'on a très envie de traiter, qui est celui sur la biodynamie et le bio, parce qu'il faut bien faire la distinction entre les deux. Alors, au pied des volcans, on cultive plutôt bio, on respecte la biodynamie.
Ah,
comment ça se passe
Alors, effectivement, j'ai rencontré des vignerons qui sont très biodynamie, c'est-à-dire ils ont un rapport plus que biologique, parfois un peu mystique, avec la vigne et le terroir. Vous avez également des grands vignerons qui font plus dans l'industriel et qui font beaucoup de rendement à l'hectare, ce qui diminue la qualité du vin. Et entre les deux, vous avez, je dirais, les vignerons traditionnels qui essayent de perpétuer les méthodes ancestrales et qui font du vin très rustique. Parfois, ils ne revendiquent même pas l'appellation contrôlée parce qu'ils opèrent en dehors même des règles sanitaires. Ils utilisent les vieux fouloirs en pierre de lave et ils font du vin, croyez-moi, il est bon.
Bon. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité du sol, justement, le sol d'une vigne d'un volcan alors.
Très variable d'un volcan à l'autre. Si je prends, par exemple, je vais prendre un exemple dans le Puy-de-Dôme, il y a un domaine, le domaine Miolan, qui fait du très très bon vin Pinot Noir Gamay sur de la pierre ponce, des éruptions du Puy de Sancy. Et ils ont fait la remarque qu'un Pinot Noir planté sur la pierre ponce aura un arôme de rose, alors qu'à côté, sur un terrain plus calcaire, il sera plus sur le fruit. Mmh. Voilà, juste une petite différence. Ouais. Pareil dans l'Oregon, il y a des pinots noirs sur basalte et des pinots noirs sur sédiment. Le pinot noir sur sédiment calcaire, comme en Bourgogne, aura le goût du Bourgogne, terreux, épicé, etc. Sur la lave volcanique juste à côté, il sera beaucoup plus fruité, fruits rouges, fruits noirs. Donc, on voit tout de suite la différence. Alors, la caractéristique des laves volcaniques, bon, c'est qu'elles sont poreuses, elles drainent bien l'eau. Et puis, chimiquement, bah, ça variera d'un volcan à l'autre. L'un aura plus de potassium dans ses laves, l'un aura moins de potassium. Celui qui aura moins de potassium, il fera un vin acide, parce que le potassium, généralement, il va équilibrer l'acidité. Donc, s'il n'y en a pas dans le sol, bah, l'acidité, elle part en flèche. Et ça, c'est très bon pour les vins blancs, par exemple. Ouais. Voilà, donc il y a toutes sortes de particularités.
Vous dites que la texture du sol aussi, avec une terre volcanique qui filtre aussi beaucoup l'eau. Alors ça, c'est formidable pour une vigne. Hein.
Exactement. Il faut d'ailleurs, voilà, que les vignerons savent bien, on plante la vigne sur un sol pauvre parce qu'il faut stresser le raisin. Il ne faut pas lui donner assez à boire et à manger pour qu'il ait envie de se reproduire, qu'il fasse des grappes. Et donc, voilà, vous aurez un volcan. Ça donne à la fois la porosité, ça donne la pente et surtout, ça donne toutes sortes de microclimats. Vous êtes sur un cône, vous êtes un peu sur une île, même au milieu d'un continent. Ouais. Vous pouvez aller tout autour du volcan, flanc nord, flanc est, flanc ouest, etc. L'altitude que vous voulez, et vous pourrez exactement faire le vin où vous voulez pour lui donner la saveur que vous voulez.
Bon, Avner Barène, qu'est-ce qui se passe dans votre tête de mathématicien? Je vous vois avec des billes dans les yeux à l'évocation de ces vins volcaniques.
Non, je trouve que c'est magique d'entendre parler comme ça du vin. C'est toujours extrêmement plaisant. Et si votre femme, effectivement, gagne au loto, j'aurais envie de lui conseiller de nous ramener du vin.
Voilà, de s'offrir une belle cave.
Effectivement, comment on goûte du vin est une vraie question. C'est tout un domaine, la sensométrie, comment on définit le goût du vin. Et
pas facile.
Effectivement, les paramètres, que ce soit de météorologique, de sol, vont influencer.
Exactement.
Vous avez beaucoup de paramètres.
Ouais. Il y a des travaux scientifiques sur cette question-là ou pas?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un géologue américain que j'ai rencontré chez un des vignerons, chez justement Frank Cornelissen à l'Etna, qui a fait des prélèvements. Il faut absolument que je rentre en contact avec lui pour savoir ce qu'il a trouvé, parce que ce viticulteur belge fait des vins sur plein de parcelles différentes autour de l'Etna, de composition donc très différente. Il m'a fait faire un tour d'ailleurs de ses vignes, mais c'était fabuleux, la façon dont il en parlait.
Dans le Puy-de-Dôme, les caves aussi sont creusées pour certaines dans la roche volcanique.
Absolument. Il y a dans la lave et dans ce qu'on appelle la pépérite, c'est le contact du magma avec un lac qui fait exploser et ça retombe. Vous avez un mélange qui est genre poivre et sel de roche, qu'on appelle la pépérite à cause du poivre. Ce qui est très drôle, c'est que le gamay a un goût poivré. C'est une coïncidence, mais ça rejoint la belle illustration du sol.
Et votre vin préféré alors de ce tour, alors méditerranéen, même si la Californie, l'Oregon, mais principalement donc en Méditerranée, qu'est-ce que c'est Charles Frankel alors?
Je dirais que c'est un Etna rouge parce que bon, c'est simplement mon amour pour ce volcan. Comme je vous dis, c'est l'endroit qu'on met en bouteille.
Bon, Fabrice Drouel qui vient de rentrer dans ce studio, vous connaissez vous qui êtes italien, Fabrice, quand même, vous avez goûté du vin volcanique ou pas?
Oui.
Vous avez des souvenirs de vin de l'Etna par exemple?
Absolument. Ouais. Oui. Les vins siciliens dans l'ensemble sont bons.
Absolument.
Donc celui-là l'est encore plus parce qu'effectivement, il y a cette proximité avec le volcan.
Et c'est ce que vous découvrirez dans ce livre que je vais offrir à Fabrice, justement. Vin de feu, à la découverte des terroirs des volcans célèbres. C'est magnifique, c'est très bien illustré, il y a de belles photos. Et c'est la découverte vraiment assez originale de cet aspect des terroirs. Duneau publie votre ouvrage, Charles Frankel. Allez, on rejoint tout de suite en direct de la Porte d'Orléans, Solange Desaguerre qui est avec nous, puisque dans quelques minutes, un cortège va s'ébranler dans les rues de Paris. Il s'agit de Science en Marche, un mouvement qui réclame un plan d'urgence pour la recherche, qui après 3 semaines d'initiative dans toute la France s'apprête donc à battre le pavé parisien. Bonjour Solange Desaguerre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes biologiste cellulaire, vous êtes chargée de recherche à Montpellier, vous êtes la porte-parole de Science en Marche. Comment ça se passe là en ce moment? Vous êtes donc Porte d'Orléans, est-ce qu'il y a du monde pour vous rejoindre?
Oui, il y a du monde. Patrick Lemaire, donc, qui a fondé le mouvement, est en train de faire un discours. Alors je ne vois pas jusqu'où ça va, mais oui, il y a beaucoup de monde.
Ah ben c'est bon signe si vous ne voyez pas jusqu'où ça va alors.
Oui, ben écoutez, je ne suis pas bien placée non plus, mais non, il y a du monde. On ne voit pas très bien, mais les gens sont au rendez-vous. Oui.
Alors, Solange Desaguerre, cette manifestation-là, dans quelques minutes, ça va démarrer à 15h, donc Porte d'Orléans, fait suite à un parcours à travers les routes de France depuis 3 semaines. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu cette expérience particulière qui est vraiment née comme ça d'une idée, d'une fin de réunion
Oui, c'est ça. C'est une idée qui a germé le 3 juin au cours d'une réunion qu'on avait organisée à Montpellier. On a monté ça, alors que ça demande une organisation absolument incroyable en quelques mois.
Oui.
Et ben voilà, on s'est lancé sur les routes le 28 septembre à Montpellier, juste avant les inondations. La météo nous a épargnés et puis le but c'était d'aller vers le public, de rencontrer les gens, les élus locaux, faire des animations dans les villes étapes pour pouvoir expliquer à quoi servent les sciences, en quoi elles sont importantes pour la vie de notre pays, la vie sociale, culturelle, mais aussi économique et démocratique de notre pays. Et puis pour expliquer nos difficultés et pourquoi, eh bien, on réclame que le gouvernement est une véritable politique ambitieuse pour l'enseignement supérieur et la recherche.
Est-ce que vous avez senti justement que les Français que vous avez croisés sur votre route étaient à vos côtés, avaient bien compris votre message en tout cas et vos revendications ?
Oui, ils ont très bien compris. On a toujours eu des très bons retours. Les gens sont en général très positifs, surtout quand on leur explique que finalement on ne demande pas des crédits supplémentaires, on demande simplement qu'une partie de l'argent qui est alloué par l'État à l'enseignement supérieur et à la recherche privée et publique confondue soit simplement réaffectée pour être utilisée de manière plus efficace. Et ce qu'on demande en fait, c'est qu'une partie du crédit impôt recherche qui est accordé aux entreprises pour faire de la recherche, mais dont tous les rapports soulignent l'inefficacité et puis la mauvaise utilisation, que cette partie qui est mal utilisée soit réaffectée à l'enseignement supérieur et à la recherche publique. Et dans ce cas-là, les gens en général sont très positifs.
Solange Desaguerre, le 7 octobre, l'Académie des sciences a écrit une lettre au chef de l'État pour l'avertir sur la situation. Cette semaine, 600 directeurs de laboratoire ont envoyé un courrier, également à François Hollande. Donc finalement, votre mouvement déborde un petit peu partout, non ?
Alors on ne peut pas dire que ce soit notre mouvement qui déborde. On va dire que c'est un des mouvements qui converge vers la même demande. C'est-à-dire que tout le monde fait le même constat et c'est impossible de ne pas le faire, qu'il y a vraiment un énorme problème au niveau de l'emploi scientifique, de l'avenir qu'on donne aux jeunes chercheurs qui sont formés dans nos laboratoires et qui ne trouvent pas d'emploi, qui ne trouvent de débouchés ni dans l'académie, ni dans le milieu académique, ni dans le secteur privé. Donc tout le monde ne peut faire que ce constat et donc chacun, selon sa sensibilité, a décidé de faire une action pour alerter les pouvoirs publics et l'opinion publique. Ouais.
Loïc Le Gag, vous soutenez avec Syncovry d'ailleurs, hein, Science en Marche
Ah, complètement. La recherche, c'est essentiel. C'est notre seul langage universel d'ailleurs.
Avner Barène hein.
La recherche d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Donc évidemment qu'on soutient ce mouvement qui n'est absolument pas catégoriel, mais qui propose une vision de la société.
Solange Desaguerre, qu'est-ce qui va se passer alors après la manifestation ? Parce qu'au fond, c'était aussi le point de rencontre après ces trois semaines de traversée dans tout le pays. Vous allez inventer d'autres choses ensuite ?
Mais disons que pour l'instant, la balle est dans le camp du gouvernement, du chef de l'État. On va voir comment il réagit à cette mobilisation. Et bien, si on n'est pas entendu, il faudra qu'on réfléchisse à comment nous faire entendre différemment, puisque s'il s'agit simplement d'expliquer gentiment les choses, ça ne marche pas. Et bien, il faudra voir qu'est-ce
Donc,
qu'on peut
ça
faire.
Pourrait se durcir, c'est le message que vous laissez entendre. Porte d'Orléans, donc pour le démarrage, là, dans quelques minutes à peine de la manifestation. Vous allez jusqu'où ? Ce sera quoi le point d'arrivée ?
On arrive à Place Vauban.
Bon, pour ceux qui souhaitent vous rejoindre sur le parcours, scienceenmarche.org, il y a toutes les infos sur l'itinéraire sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup Solange Desaguerre et
Merci
puis bon courage à tous. Merci à nos invités pour votre venue dans ce club cet après-midi.
Au centre-ville, quand je me suis aperçu que j'étais plus dans la ville, que j'aimais, ça m'a déplu. En écoutant tous les passants, je me suis senti tout nu. Ils avaient aucun accent, en tout cas rien de connu. Jusqu'en bord de Garonne, c'était comme un grand absent. Oh le méchant coup de gomme, je me suis dit en passant. Oh mon pays, oh Toulouse, le Toulouse, oh, mon pays, oh, Toulouse, Toulouse.
femme au bras levé, que mon petit coin épouse la tradition du pavé. Ici elle recèle les cognes, la castagne c'est pour ça qu'elle a le goût de Catalogne et de Larissa. Au passage je le clame sur la plus belle avenue, avoir le prénom de la femme du soldat inconnu. Au Montpaïs, au Toulouse, le bel accent de mamie, est-ce qu'il a donné sa blouse aux gens de l'académie? Chrétien, pour le beau le Sébastien, à Babacar et Fadela, aux enfants des favelas, leur souhaiter la bienvenue, rue des promesses tenues.
Welcome.
Déclarer terre d'asile, il suffit d'oser, aux amours qu'ils soient ou pas de sexe opposé. Au Montpaïs, au Toulouse, le
C'est Zebda, bien sûr, sur France Inter. Fabrice Drouet, l'affaire sensible du vendredi, dans quelques minutes. Hein.
Oui, donc la reconstitution avec des comédiens autour de la vie, aujourd'hui de Geneviève Antonioz de Gaulle, résistante, déportée, puis figure emblématique du mouvement ATD Quart Monde. C'est une façon pour nous de lui rendre hommage en cette journée, aujourd'hui mondiale du refus de la misère.
Et ce sera après les infos, à tout à l'heure.